Bien le bonjour, on passe la matinée ensemble pour les deux prochaines heures. Un grand plaisir de vous retrouver comme ça tous les matins pour cet été. Et d'ailleurs, ce matin, on va se conter des histoires de pêche. Je vous le dis tout de suite, est-ce que vous en avez à raconter avec des amateurs? Des amateurs qui sont là et qui pêchent un peu partout au Québec, mais principalement dans la ville. Parce que oui, ça se peut pêcher dans le fleuve Saint-Laurent. Il y a plein d'endroits partout. Et semble-t-il que le poisson est bon, qu'on devrait pas trop s'en faire, que c'est assez santé et surtout, ben c'est pas cher, hein, une belle activité à faire en famille. Et il y a aussi le docteur Raymond Place, vétérinaire, qui va venir nous rendre visite pour parler de nos petites bêtes, à quel point on est attachés et à quel point on est prêt justement à payer le gros prix pour les sauver. Vous avez peut-être vu cet article dans les derniers jours dans le Journal de Montréal, notamment une dame qui a payé 9 000 $ pour des traitements à son chien. Ça a fonctionné. Elle a dit, moi, mon chien, c'est ma vie. Puis vous êtes nombreux, nombreuses. Puis c'est pas un cas isolé. Là. J'ai déjà reçu plusieurs courriels de gens qui m'ont dit, moi, je suis prêt à sauver mon chien ou mon animal de compagnie n'importe quand parce que c'est comme mon petit bébé. Alors, on va en parler justement dans la deuxième heure de l'émission. Mais pour tout de suite, je vous pose la grande question. Est-ce que vous êtes allé à l'urgence cet été? Pas que je vous le souhaite, là, évidemment, mais est-ce que vous avez attendu longtemps? Parce qu'à la mi-juin, on nous annonçait, notamment dans le Journal de Montréal, qu'il y avait moins de fermetures de lits cet été comparativement aux autres années. On pensait que c'était une bonne nouvelle. On se disait, enfin, on va pouvoir se faire soigner rapidement. Il va y avoir du monde. On va être bien traité. Mais finalement, on regarde ça, là, puis le temps d'attente aux urgences, ça n'a pas bien ben bougé. Là. Je vous avoue, là, j'ai les chiffres d'ailleurs de ce matin. Et on est quand même achalandage. Si je regarde l'occupation, 118 % notamment dans la Nodière, 163 % dans les Laurentides, l'hôpital de Saint-Eustache. Je pourrais continuer comme ça à Montréal. Il reste que c'est encore très, très achalandé. Et je pose la question, est-ce que c'est possible de se faire soigner rapidement durant l'été au Québec? Avec nous en studio, Lynn Laroche, infirmière, auteure du livre Une infirmière en colère. Bonjour, Lynn.
Bonjour.
Jacques Beaulieu, chroniqueur et blogueur au HuffPost Québec. Bonjour, Jacques.
Bonjour.
Et Patrick Derry, qui est analyste en politique publique à l'Institut économique de Montréal. Bonjour, Patrick.
Bonjour.
Lynn, au cours des deux dernières années, bon, on s'est parlé à chaque année,
oui,
on revient.
Oui, exactement.
Oui. Vous avez travaillé dans au moins 7 urgences. Est-ce que vous avez vu une différence, une évolution? Parce qu'on dit que là, cet été, semble-t-il...
Oui, j'en ai vu une.
Oui.
C'est pire. C'est pire. D'année en année, c'est pire. Les patients sont toujours présents, le personnel en place plus fatigué. Puis là, on va parler de statistiques, mais c'est sûr qu'on utilise certaines statistiques. Le CIUS de Sherbrooke, il y a supposé un membre du personnel sur 4 en maladie. Ça, c'est des chiffres. Moi, je regarde passer, puis je prends des notes, puis je regarde, puis je connais des gens qui travaillent là, puis j'ai des collègues, puis des amis, puis j'essaie de pas être juste moi et mon hôpital ou moi et mes hôpitaux et moi et mon agence, mais j'essaie de voir avec des collègues et ça va pas mieux. C'est sûr que quelqu'un qui se présente en crise cardiaque ou en accidenté de la route, il y en a pas de problème. Le problème, c'est les patients qui sont cas des 4. Ou qui sont cas des 5. Ils doivent voir le médecin, mais leur état de santé ne va pas leur nuire s'ils attendent 2, 4 ou 6 heures. Et les ressources qu'il y a sont sursaturées. Et moi, je dis qu'une des solutions, en fait, c'est d'utiliser plus les compétences des gens qui sont déjà en place.
Ça, faudrait le faire davantage,
oui. Oui, ça serait, ça ferait partie des solutions.
Patrick Derry, il y a quelques jours, vous avez fait paraître les chiffres et le temps d'attente dans les urgences. Puis contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a pas eu vraiment de diminution, là.
Non, exactement. C'est-à-dire que faut rappeler, l'année passée, le ministre avait lancé un ultimatum pour dire que les séjours de 48 heures à l'urgence, c'était fini, puis il ne devait plus en avoir. D'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai amené une page de journaux. On ne peut pas la montrer à la radio. Mais on voit le titre, là, c'est « Québec met de l'ordre dans les urgences. Aucun patient ne pourra y passer plus de 48 heures. » Ça date du 11 mars 1980. Comme quoi, ça n'a pas changé beaucoup. Donc, qu'est-ce qui est arrivé l'an dernier? Le message du ministre, il a dit « Ben là, vous organisez, sinon il y a peut-être des têtes qui vont rouler chez les gestionnaires d'hôpitaux. » Donc, les gestionnaires font ce qu'ils peuvent avec les ressources qu'ils ont puis avec les incitations du système présentement. Il y a eu un recours assez marqué, semble-t-il, aux unités de débordement. Entre autres, la critique en santé du PQ, Mme Lamarre, a fait des demandes d'accès d'informations là-dessus, puis on a vu que c'était vraiment plus aigu, puis ça a été corroboré par un paquet de témoignages. Nous, quand on a vu la baisse de 2 heures, on a trouvé ça un petit peu suspect, puis on s'est dit, s'il y a des patients là, qui sont envoyés ailleurs à l'hôpital, mais qui sont toujours sur civière, ça soigne peut-être les statistiques, mais ça fait pas grand-chose pour les patients.
En fait, on joue avec les chiffres, mais, c'est ça, ouais.
Ouais, écoutez, ça a toujours été mesuré avec la moyenne, mais pour faire quoi, on a regardé avec la médiane, qui est avec les mêmes données du ministère, la même méthodologie, c'est juste un autre indicateur statistique. La médiane, c'est le patient qui est au milieu. Fait que c'est moins influencé par les extrêmes, puis c'est plus représentatif de la situation des patients. Puis quand on regarde ça, en gros, le temps sur civière a baissé un peu, mais c'est plus 2 heures, c'est une vingtaine de minutes. Fait que, tu sais, on est dans les mêmes eaux, attendre 9h15, 9h30, ça change pas grand-chose. Puis le temps global pour tous les patients qui sont à l'urgence, ça a augmenté de quelques minutes, 5-6 minutes. C'est pas beaucoup, mais au bout de 10 ans, c'est avec ça qu'on fait des heures puis des 2 heures. Fait que finalement, là, c'est comme dit Mme Laroche, il n'y a rien qui change.
Oui. Jacques Beaulieu, justement, vous dites qu'on parle de twister les chiffres. Oui. On est en train parfois de nous en faire passer des petites vites là, pour comme nous calmer les nerfs.
Oui, mais en fait, c'est comme Madame le soulignait tantôt, c'est loin d'être nouveau comme phénomène. Moi, j'ai écrit un livre en 2000 avec le docteur Augustin Roy, décédé malheureusement depuis, sur le système de santé. J'en ai écrit un autre en 2012 avec 2 autres médecins. Et il n'y a rien. En fait, le seul changement qu'il y a, c'est que c'est pire. C'est pire pour plusieurs raisons. C'est pire parce qu'on a encore bureaucratisé encore plus notre système de santé qu'il l'était. Vous savez que, par exemple, donner un chiffre, par exemple, en Suède, où on a une population d'environ 9 millions d'habitants, c'est-à-dire un peu plus qu'ici, puis on a 3 fois moins de fonctionnaires qui s'occupent de la bureaucratie de la santé qu'ici. Ici, on en a environ 100 000, puis là-bas, il y en a environ 30 000. Alors, on a bureaucratisé, et plus on change, plus on bureaucratise. Vous savez, je le soulignais et je l'ai répété souvent, dans le domaine de la santé, on a l'idée, ça serait de décentraliser, parce que les besoins en santé sont pas les mêmes en Gaspésie qu'à Montréal ou qu'à Val-d'Or ou qu'à Québec. Alors, il faut décentraliser. Ben, on a fait exactement l'inverse. On a ultra-centralisé. Moi, je pensais que quand M. Barrette avait réduit le nombre de conseils d'administration, il en profiterait pour donner du pouvoir aux conseils d'administration. On leur dit, bon, maintenant, vous allez vous occuper de votre région. Il en restait seulement 29.
Puis ils sont conscients de ce qui se passe chez eux. C'est leur monde, là.
Ben oui, c'est ça. En fait, plus on décentralise, mieux. C'est une des clés du succès. L'autre clé du succès, ça serait de démocratiser tout ça, c'est-à-dire de permettre aux patients d'être sur les tables de concertation avant que les réformes se fassent. Là, les réformes se font en haut lieu. On ne sait pas ce qui se passe. Ni les intervenants, les soignants, ni le patient ne sait ce qui se passe. Et là, ça nous est pondu après ça. Ça nous arrive comme ça, en pleine face. Et tout ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a eu beaucoup de changements depuis l'époque où M. Couillard était ministre de la Santé. À l'époque, ça s'appelait des régies régionales. Là, lui, il les a abolis, c'est devenu des agences de santé. Là, M. Barrette les a abolis, c'est devenu des Alors, le vocabulaire puis la gestion de la communication, c'est très fort. Mais la gestion des patients, par exemple, ça, j'y crois plus. Là, je suis complètement. Quand j'ai vu l'article dont vous faisiez mention qu'il y aurait moins de temps d'attente, j'avais même pas de doute que c'était pas vrai. Ouais,
quelques moins de lits fermés.
Il y a une autre affaire aussi, on pense pas. Docteur Barrette a centralisé. Ils ont inventé les CIUSSS. Alors là, maintenant, je donne un exemple. Un gestionnaire de Grimby va partir pour aller en réunion à Sherbrooke. Fait qu'il n'est pas là. On paye son transport, on paye son temps de travail, on paye son dîner parce qu'il est à l'extérieur. Pendant ce temps-là, il n'est pas à Grimby ou dans un autre hôpital, elle ne fait pas le travail, il n'est pas là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont engagé un autre gestionnaire pour la remplacer parce qu'il n'est pas là. Puis là, pendant ce temps-là, elle est à l'autre bout, en réunion. Tu ne peux pas la rejoindre. Fait que s'il arrive un problème, n'importe lequel, elle n'est pas rejoignable. Mais s'il arrive des solutions, elle n'est pas rejoignable non plus. Fait que ça ne se rend pas. Il n'y a plus rien qui se rend. Fait que Dr Barrette, ce qu'il a fait depuis 4 ans, ils ont empiré. Fait que probablement qu'il va passer à l'histoire pour ce qu'il a fait.
Pour les mauvais coups et pas pour les bons. Parce qu'il a quand même fait. Il y a eu des bons coups quand même.
Il aurait pu avoir des bons coups. J'ai dit que les 2 premières années auraient pu être très belles.
Ouais.
S'il n'y avait pas eu les 2 autres. Alors, parce que Dr Barrette, bon, pour changer un système où il y avait 129 conseils d'administration, je trouve que c'était un peu trop, puis il y avait beaucoup de bureaucratie autour de ça. Pour ramener ça à 30, il fallait avoir un front de bœuf, puis être un bulldozer un peu. C'est comme ça qu'il a agi. Ça, c'était la première partie du mandat.
Ça a peut-être fini par être trop, finalement, le bulldozer.
Mais en fait, la deuxième partie du mandat, c'est qu'il aurait fallu être un rassembleur pour permettre à tous les gens de ces places-là de se mettre ensemble, de dire, ben là, maintenant, on reconstruit un système qui va fonctionner. Mais ça, il l'a pas fait parce qu'il a continué à être un bulldozer.
Peut-être l'erreur aussi, c'est qu'on a tendance à penser le système en bloc comme quelque chose qui est monolithique puis qui est uniforme. Puis sur la décentralisation, puis c'est drôle, vous avez parlé de la Suède parce qu'on s'est penché nous autres là-dessus. On trouve la Suède, c'est un cas intéressant parce que c'est un pays qui partage nos valeurs sociaux-démocrates. Il y a un système de santé qui est financé. Le payeur unique, c'est l'État, fait que ça nous ressemble beaucoup. Et c'est une population qui est comparable avec une démographie qui est comparable, une utilisation des urgences qui est comparable aussi parce que en Suède aussi, pour la première ligne, c'est mieux qu'ici, là, mais je veux dire, les patients se rendent quand même à l'urgence à un moment donné, ils ont besoin d'y aller. Et vous avez un système qui est beaucoup plus décentralisé. L'équivalent de nos CIS puis nos CIUS ont beaucoup plus de pouvoir sur la gestion locale des établissements de santé. Puis ça, ça fait vraiment une différence. Parce que, écoutez, c'est caricatural. Le ministre s'occupe des menus dans les établissements. Je veux dire, c'est quand même incroyable. Ça n'a aucune utilité. Mais
il
ça
fait
montre...
même des contrôlants avec les journalistes.
Oui, exactement. C'est ça qui est très contrôlant. Et à un moment donné, il faut laisser les gens travailler. Puis ça se fait à deux niveaux. Ça se fait au niveau, évidemment, des régions. Parce que, je veux dire, la Gaspésie puis Montréal, c'est deux choses qui sont différentes. Puis, je sais peut-être que la région de Montréal, par exemple, pourra arranger ses hôpitaux autrement. Puis décide d'avoir tous des hôpitaux, tous pareils, quasiment, qui sont faits sur le même moule, avec tout le monde fait de l'urgence, tout le monde fait de l'obstétrique. En tout cas, il y a des petites variations. À peu près, pour avoir des spécialisations, ça se fait ailleurs, puis, tu sais, ça pourrait aider. Puis en plus, au niveau des employés, évidemment, comme l'a dit Mme Laroche, à un moment donné, il faut laisser les gens travailler aussi. Les solutions ne viendront pas toujours d'en haut de façon uniforme. Ça va être pas pareil des fois. Il y en a qui vont s'améliorer plus vite, mais il va y avoir des solutions différentes ailleurs. Il va y avoir des mutations. Puis c'est ça qu'on a de la misère ici au Québec, puis c'est pas le paradis dans le reste du Canada non plus. On a des systèmes rigides puis centralisés.
Mais rigides, ce que je veux dire aussi, c'est que on s'entend, les gestionnaires qui sont un peu partout dans le ministère de la Santé, ce sont du personnel. Il y a des inhalothérapeutes, il y a des infirmières, il y a des gens qui travaillaient déjà, qui sont devenus gestionnaires. Mm-hmm. Fait que demain matin, dans le livre que j'ai écrit, je disais, demain matin, si on coupe 20 % des gestionnaires, mais que ces 20 %-là de personnes retournent sur le plancher,
pour avoir davantage,
il
n'y
en a plus
de problème
de personnel. Mm. Parce que c'est ça aussi. Les gens quittent, c'est comme un cercle vicieux. Les gens quittent parce que c'est trop lourd. Ils vont en maladie ou ils démissionnent ou ils changent complètement de carrière.
Et puis ça, on l'a vu beaucoup avec les infirmières.
Il y en
notamment.
A plein. Et c'est prouvé que dans les 5 premières années qui suivent l'obtention de leur diplôme, il y a 40 % des infirmières qui quittent parce que c'est trop lourd. Mais le problème qui va arriver, puis je ne veux pas être pessimiste, mais... Le pic démographique, c'est 1960. Fait que ça veut dire que ceux qui sont nés à 60, quand ils vont avoir 65 ans, ils vont peut-être manquer de sous dans les fonds de pension, mais ils vont arriver dans les hôpitaux où ils vont manquer de monde. Puis c'est plate à dire, mais il n'y a pas un robot qui peut faire mon travail.
Ouais.
Il n'y a personne qui peut remplacer mon travail.
Oui, l'intelligence artificielle, des robots, mais non, ça n'ira pas dans le milieu de la santé.
C'est ça.
Juste pour certaines opérations, mais pour les soins en premier lieu, effectivement.
Ouais. Ouais. Ce que vous mentionnez, c'est intéressant parce que à l'hôpital de la Cité de la Santé, par exemple, il n'y a pas longtemps, je demeure à Laval, il y avait 37 postes d'infirmières à temps plein ouverts qui n'étaient pas comblés. Les gens ne veulent pas combler les postes. Puis c'est une carrière qui est super intéressante. Ouais. C'est pas normal. Pourquoi? Parce que quand tu as ton poste, tu deviens obligé de faire du temps supplémentaire obligatoire, évidemment. Fait que c'est plus intéressant. Il y a toute une question d'organisation puis de gestion qui
c'est ça. Il manque de monde. Les temps pleins, leurs fériés sont refusés. Leurs vacances, ils sont obligés d'être acceptés. Mais je pense que c'est 12 ou 13 fériés par année que tu ne peux pas prendre. Appeler malade, on oublie ça.
Non, ça
parce que
pas.
C'est tes collègues que tu mets dans le trou. Ce qui tient le système de santé, là, je pense, présentement, là, c'est l'esprit d'équipe du personnel. C'est les gens qui travaillent sur place. C'est ça qui tient le système de santé parce qu'il aurait craqué.
Le sentiment du devoir, le sentiment d'aider le patient aussi.
La vocation, en fait, c'est peut-être le grand mot, mais c'est ça qui fait que ça fonctionne encore. Ouais. Tu ne vas pas appeler malade parce que tu sais que tes collègues, ils vont être mal pris.
Mais en même temps, ça a des répercussions aussi sur le reste aussi. La discussion est lancée. On va prendre les appels, les auditeurs. Déjà, c'est commencé. 1-866-790-9850, 514-790-9850. Vous pouvez évidemment toujours nous écrire. Ça nous fait plaisir de vous lire. On se retrouve après la pause. Est-ce que c'est possible de se faire soigner rapidement durant l'été? Quand je dis rapidement, ça ne veut pas dire 14 heures, ça ne veut pas dire 17 heures. Évidemment, on est censé se faire soigner en quelques heures à peine. Évidemment, on parlait en début d'émission que si vous avez un grave accident, vous allez être pris en charge. On parle de maladie, mais on parle de quel... Vous ne sentez pas bien, vous ne savez pas ce que vous avez, vous allez à l'urgence, bien, c'est bien de valeur, mais vous allez attendre. Je reçois plusieurs courriels, notamment de David. Dimanche après-midi, ma blonde a un accident considéré à haute vélocité. Évidemment, on est inquiet dans ce temps-là. Donc, envoyé dans un centre de trauma pour être bien certain, 14 heures avant d'avoir des radios qui sont faites par des techniciens. Il y a un seul médecin de garde, c'est à l'hôpital de Saint-Jérôme en pleine nuit. En tout, ça a pris 17 heures et on s'est fait bumper une douzaine de fois par rapport à notre numéro. Évidemment, il dit c'est pas fort. On peut comprendre, puis il y a cette inquiétude-là. T'as un accident. Tu ne sais pas ce que tu as, tu vas au centre de trauma. Même si on dit, tu n'es pas en danger de mort, il reste quand même une inquiétude et d'attendre 17 heures, c'est inacceptable.
C'est trop long. C'est trop long. C'est sûr que pendant cette période-là, comme J'imagine qu'il y avait une surveillance infirmière, des signes vitaux qui ont été pris. La personne, le David qui parle dans son courriel, il mentionne pas s'il y avait eu en bout de ligne des fractures ou quoi que ce soit. Mais qu'il y en ait eu ou qu'il n'y en ait pas eu, le délai est trop long, ouais. C'est inacceptable. On fait quoi après? C'est ça. Là. Moi, je suis rendue là dans mon cheminement. On fait quoi après? Qu'est-ce qu'on veut?
Au Québec, on a établi comme porte d'entrée dans le système de santé les urgences des hôpitaux. Et ça, ça a été une erreur magistrale. Et ça fait longtemps qu'on le sait. Même M. Marc-Yvan Côté, dans les années 70-90, avait fait une grande cérémonie là-dessus en disant « L'hôpital, c'est pas la porte d'entrée dans le système de santé. On va créer des CLSC qui vont faire ça. » Ils l'ont pas fait. Alors, l'hôpital demeure encore quand vous êtes malade, puis que vous... puis d'ailleurs, que vous appelez le 811, on vous répond la plupart du temps.
Oui,
allez donc à l'hôpital.
Allez à l'hôpital pour être certain.
Ben,
oui.
C'est ça.
Allez à l'urgence.
Tout le monde s'en va à l'hôpital. Si à l'urgence, il n'y avait que des cas d'urgence,
on
il n'y en aurait pas d'attente.
On va prendre quelques appels. François est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous revenez de Maisonneuve-Rosemont. Ça s'est passé comment?
Ça s'est passé, c'était feuille très, très patient.
Ah oui?
Moi, mon père a 86. OK, c'est un monsieur qui est en santé, mais là, il y a eu un petit problème de santé. Il y a eu un petit problème qu'on a dû gérer. 86 ans assis sur une chaise droite en plastique pendant plus que 12, 13, 14 heures.
Ah.
Oui. Je trouve ça totalement inacceptable. En plus, il faisait froid. Comme on est passé en ambulance, on n'a pas vraiment pris le temps. Puis comme on n'est pas habitué, on n'a pas pris le temps de s'habiller correctement. J'ai demandé d'avoir une couverture pour le réchauffer. Il gelait.
Mmh.
On donne pas de couverture dans la salle d'attente. Il a fallu que j'aille trouver des jaquettes là, dans un truc pour y mettre ça sur le dos parce qu'il était gelé. Puis il y avait une petite fille qui devait avoir 5 ans ou 6 ans là, qui a passé une douzaine d'heures couchée sur trois chaises droites en plastique. Là. Ça n'a pas de sens. Quand on a vu le médecin, je pense qu'on a eu d'excellents soins. Ensuite, il y a eu l'attente. Là, parce que là, on a fait des tests sanguins, on a fait des radiographies. Là, on a encore attendu 2 heures avant d'avoir un autre médecin pour avoir une prescription. Mais moi, j'ai pas beaucoup d'expérience avec le système de santé, mais j'ai trouvé ça totalement inacceptable. J'ai trouvé ça scandaleux. 86 ans, mon père. Là.
Oui.
Tu sais, une civière, quelque chose. Il était brûlé. En plus, tu sais, on est arrivé comme vers 9 heures, ben vers 8 heures avant hier soir. Fait que là, lui, il n'avait pas dormi de sa journée. Là, il était brûlé d'un reste.
Ouais, c'est sûr, à 86 ans.
Moi, en tout cas, si j'étais infirmier ou médecin, là, je ne le dirais pas, je serais gêné.
Ben moi, je suis pas gênée de le dire, non, monsieur, mais, parce que je fais tout ce que je peux. Mais puis les émissions comme ce matin, c'est pour ça que ça existe, j'imagine, c'est pour faire avancer des choses. Fait que s'il y a des solutions qui peuvent arriver, je pense que monsieur Beaulieu parle de l'urgence qui est la porte d'entrée. Au lieu de faire tout le temps ce qu'on fait depuis que moi j'ai connaissance, là, on défait, on refait. Bon, si les urgences c'est la porte d'entrée, parfait. La porte d'entrée est là, il y a tous les services. Ça, c'est mon opinion personnelle. Il y a tous les services. Il y a de la radio, il y a le laboratoire, il y a tout ce qu'on a besoin. Pourquoi on prend pas des infirmières praticiennes? Puis que ce sont elles qui font le triage. Elles pourraient voir les codes 4, les codes 5, qui s'enlèvent. Rien aux médecins qui sont en place. On utiliserait les ressources à leur pleine capacité. Ça pourrait être une façon, je pense. Je l'ai dit tantôt, si on coupait 20 % des gestionnaires puis qu'on met ces gens-là sur le plancher, ça pourrait aider aussi à remplacer. Il y a tellement de solutions faciles, mais ça prend une volonté politique. Puis jusqu'à preuve du contraire, il y a personne qui a la volonté politique de faire ça.
Mais d'entendre un témoignage comme celui de François où son père a passé de nombreuses heures, 86 ans, pas habitué au service de santé, ouais. T'arrives à l'urgence, t'as froid, t'as des difficultés, ouais. T'as l'inquiétude de passer une nuit debout. Évidemment, c'est rien pour aider la santé du patient non plus, là.
Présentement, c'est un des problèmes, c'est que le patient, on demande au patient de s'impliquer dans sa santé, c'est-à-dire de faire de la prévention, d'apprendre les règles d'hygiène, de prévention. On demande au patient de faire ça. Mais va falloir aller plus loin que ça. Il faudrait que le patient s'implique dans la gestion de son système de santé. Parce que comme c'est là, il y a un décideur qui est en haut de la pyramide, puis qui donne des décisions, qui prévoit puis qui fait tout pour ceux qui sont en bas de la pyramide. Les autres n'ont pas un mot à dire. Et je comprends pourquoi ils n'ont pas un mot à dire. Quand vous n'êtes pas malade, vous ne savez pas que le système va mal. Vous n'en avez pas, vous n'avez pas de problème. Mais quand vous vivez une expérience comme monsieur vient de décrire tantôt, vous vous rendez compte qu'il y a des, qu'il y a des problèmes. Alors, c'est à nous, les patients, de prendre en main nos choses. Moi, ça fait des années que je milite pour un bureau des usagers qui serait situé juste à côté de la porte du ministre de la Santé, pour qu'on puisse au moins se parler, puis qu'on puisse au moins avoir accès à ce qui nous prépare en santé. Parce que les décisions qui ont été prises là, durant les quatre dernières années, il y en a plusieurs qui se préparaient depuis longtemps. Bon, on n'est pas au courant de ça. Les directives nous arrivent. Le personnel soignant est aussi victime des directives que nous le sommes.
C'est ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on n'est pas là non plus à boulet rouge sur le personnel soignant qui travaille, s'en fait demander à tout bout de champ. Puis les médecins aussi, une fois que tu es traité, le médecin fait le même travail, puis il a droit à des vacances aussi, mais il faut mieux gérer ça aussi.
Le médecin, là, sans faire de reproche, il y a une chose, par contre, c'est du côté de la délégation aux autres professionnels dans le réseau de la santé. Évidemment, les infirmières cliniciennes et les super infirmières, c'est je veux dire, on se prive d'une ressource qui est vraiment précieuse. On en a une couple de centaines au Québec, il y en a quelque chose comme 2000 en Ontario. Mais toutes les autres infirmières aussi, les infirmières sans être super, là, ce sont bonnes les infirmières aussi, il faut les laisser travailler aussi, ils sont expérimentées. Il n'y a pas besoin de retourner voir le médecin aux 10 minutes. Puis là, c'est un peu un problème à un moment donné parce que tout passe par le médecin et on n'en a pas beaucoup de médecins au Québec. Hein. Ça, il faut le réaliser. Là, alors, des fois, on voit des nouvelles passées comme quoi le Québec a beaucoup de médecins. Même le ministre a dit que le Québec avait 2000 médecins de trop.
C'est pas vrai.
Le Québec a marginalement plus de médecins que dans le reste du Canada, mais quand on compare dans le reste des pays développés, on est un des endroits dans le monde, dans les pays développés, où il y a le moins de médecins. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ça met une pression épouvantable. Fait que la façon, je dirais, intelligente et logique de réagir à ça, on devrait en former plus, c'est-à-dire arrêter de mettre des limites artificielles sur le nombre de médecins. Quelqu'un qui est capable d'être médecin, on laisse poursuivre ses
études. Il a des capacités,
Et deux, tout ce qu'on peut donner aux pharmaciens, aux infirmières, aux autres professionnels aussi, on les laisse aller. Puis, peut-être qu'une fois, de temps en temps, on va avoir besoin de retourner vers le médecin, puis c'est correct, mais il y a plein de fois, je veux dire, même moi, maintenant, je sais quand mon gars fait une otite. Je veux dire, ça fait comme 8 fois que ça arrive. Là,
on commence à connaître les symptômes. Ça prend une couple de fois.
Exactement. Je gâche, j'avais travaillé pendant 30 ans dans le système de santé, comme Mme Laroche, à un moment donné, là, il y a des affaires, tu te doutes un peu.
Oui. Puis tu sais que il n'y a pas une gravité. C'est un peu les.
Oui. Puis il y a différents... Mais on s'entend qu'à 3h du matin, quand ton enfant fait une otite puis qu'il pleure, puis que tu as une grosse journée, tu vas aller à l'urgence en espérant d'être passé avant 8h. Puis là, il va être traité rapidement. Toi, tu vas pouvoir aller travailler. Il y a plein. C'est la vie. Mais on dirait que les gens, le ministre, les gens, quand tu mets le pied à l'hôpital, il faudrait que tu mettes ta vie de côté. Il faudrait que. Le temps s'arrête.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec l'idée de déléguer, sauf que j'ai un petit bémol à rajouter, c'est qu'on délègue à des gens qui sont déjà saturés, qui sont déjà épuisés. Je regardais encore ce matin, il y avait un article d'une infirmière à Maria, là, en Gaspésie, qui elle, quitte, là, parce qu'elle dit « Moi, je suis épuisé, j'en peux plus. » Alors, c'est beau de déléguer, mais encore faut-il que les gens à qui on les délègue soient capables de prendre la charge, et on les a déjà surchargés.
Oui, mais je reviens à mon idée, c'est comme un casse-tête. Un morceau, c'est on coupe le nombre de gestionnaires. Deuxième morceau, ces gens-là continuent à être dans le milieu, mais en travaillant. Oui. Donc, ils reprennent leur emploi, inhalo, infirmière ou autre, et on délègue. Mais que ça part de la base, dans le livre que j'ai écrit, il y a un chapitre qui parle du gaspillage. Ça aussi, parce qu'il y a, à mon sens, là, dans le milieu de la santé, il n'y a pas de problème d'argent. Il y a un problème de mal-gestion, puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gaspillage. Si demain matin, les solutions partaient de la base, puis ça allait vers les niveaux plus supérieurs, il y aurait moins de problèmes.
Il y a une dame qui nous écrit qu'elle est allée à Maisonneuve-Rosemont. Elle a dû se rendre à l'urgence parce qu'elle avait des douleurs abdominales. Donc, elle a rencontré une infirmière. Puis d'après ses explications, en fait, elle a pensé qu'elle faisait une infection urinaire avec des douleurs bien différentes que celles ressenties qu'elle avait auparavant. Elle a dit « Est-ce que vous voulez attendre ici longtemps? » Ça, c'est l'infirmière. « Ou je peux vous référer à une clinique près de chez vous. Vous allez être pris en charge peut-être plus rapidement. » Donc, déjà, de le proposer, de donner la solution peut-être différente que de dire « Vous pouvez rester ici pendant pendant 10 heures. Mais si vous allez à la clinique à côté de chez vous, savez-vous qu'il y a ça? Et effectivement, il était 6 heures du matin. Mon rendez-vous a été fixé à 12h10. Et 2 heures plus tard, j'avais vu un médecin. Et l'analyse confirmait effectivement une infection. Donc, quand on parle de laisser plus de pouvoir aux infirmières et d'aller vers d'autres services que de rentrer à l'urgence, je pense que ça en est un bon exemple. Elle était très satisfaite de ce qui s'était passé avec Maisonneuve-Rosemont. On s'arrête quelques instants et on continue de prendre vos appels. Est-ce que c'est possible de se faire soigner rapidement durant l'été? 1-866-790-9850. Est-ce que c'est possible de se faire soigner rapidement durant l'été? Manifestement, la réponse semble non. Hein? C'est, jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire qu'on a vu beaucoup...
Ça n'a pas été un franc succès.
Non, c'est exactement, Jacques. On est avec Patrick Edéry, analyste en politique publique à l'Institut économique de Montréal. Jacques Beaulieu, justement, chroniqueur et blogueur au HuffPost Québec. Et Lynn Laroche, infirmière, auteur du livre « Une infirmière en colère ». On va prendre quelques appels. Claude, bonjour.
Bonjour. Moi, j'ai été à Chicago cet été. J'ai tombé en bas de mon bicycle. Puis je me souhaite un atos. Mon frère m'a emmené dans, il appelle ça le Chicago County Center. Ça, c'est un hôpital universitaire où ceux qui ont de l'argent peuvent être traités, ça leur coûte rien. Mais ce sont des étudiants infirmières puis des étudiants d'études. Et ceux qui ont de l'argent, comme moi, avec l'assurance, ils m'ont fait payer. Quand je suis arrivé là, il y a 5 infirmières, ils appellent ça, ils ont des registered backs. Ils ont tous des backs, ils étaient 5 à l'entrée. Puis là, on se dirige vers une de ces infirmières-là. Puis là, elle m'a fait rentrer dans son bureau. Ça m'a pris 15 minutes avant d'arriver dans son bureau. Là, elle m'a examiné le pied. Elle dit, d'après moi, vous faites un atroce. Elle m'a prescrit un rayon X. Elle dit, j'ai dit que je faisais du diabète. Elle m'a prescrit une formule sanguine avec glucose. Puis là, elle m'a fait faire ça. J'ai tout fait ça. Ça a pris, disons, peut-être une demi-heure. Là, quand elle a eu le rapport, elle a dit, allez vous asseoir à la salle. Là, il y a un médecin qui m'a vu. C'est-à-dire qu'il y a un médecin qui avait vu mon rapport parce que c'est un interne. Puis là, il m'a prescrit ce qu'il faut. Puis, ben oui, chez nous, j'étais là 3 quarts d'heure.
Trois quarts d'heure, c'était réglé.
C'est ça.
Parce que là-bas, aux États-Unis, c'est pas vrai là, que les gens sont mal soignés. Moi, mon frère vit là, puis j'y vais souvent, moi, à Chicago. Puis les hôpitaux, ils appellent ça des hôpitaux de comté, qu'ils appellent. Ça, c'est des grands hôpitaux universitaires, puis je vous garantis qu'au niveau... Puis ils sont pas syndiqués, les infirmières, là-bas. Puis ils gagnent mieux qu'ici, puis ils sont mieux considérés qu'ici. Là-bas, ils appellent ça des registered nurses. C'est quelque chose.
Mais c'est comme un peu les super infirmières avec... qu'on pourrait dire.
Non,
avec...
je suis un registered nurse.
Ils en doivent prescrire. Ils peuvent faire des rayons, des prises de sang. Il y a beaucoup de choses qu'il faut. Même certains médicaments, ils ont des protocoles. Là. Okay. Puis l'infirmière me disait ça, ils ont prescrit certains médicaments. Des fois, ils peuvent, si c'est pas trop grave, ils donnent des congés aux patients.
Mais monsieur, en fait, ce qui arrive, je vous comprends très bien, hein, mais sauf que ce qui se passe de bien ailleurs, on ne l'importe pas ici. Puis même, on pousse le cynisme un peu plus loin. Ce qu'on avait de bien ici, on l'enlève. Et on en parlait tantôt à micro fermé. Je donnais l'exemple de l'hôpital pour enfants, le Children's, dans l'ouest de Montréal. Mm-hmm. Anciennement, l'hôpital pour enfants, quand il était sur Atwater, là, près de René Lévesque, il y avait un système que quand tu rentrais, tu inscrivais ton numéro de cellulaire et on t'appelait 15 minutes avant... T'avais un bip sur ton cellulaire 15 minutes avant de passer. Alors, ce qui nous permettait, avec les enfants, de se promener un peu, de ne pas rester assis là, puis, ou même de retourner chez nous, parce que nous, on restait pas loin. L'hôpital pour enfants a fermé, là, puis ils ont ouvert dans le nouveau CUSUM sur Glenn. Et là, ils l'ont plus, ce système-là. Alors, parce que les signaux passent mal, dans l'édifice n'a pas été conçu, puis les signaux
passent
mal.
Donc, on a décidé de ne pas régler le problème.
Non,
les signaux,
on l'enlève. Ça. Okay. Alors, donc, même ce qui va bien ici, on réussit à l'enlever. C'est un peu comme si on était allergique à ce qui pourrait se faire de mieux dans le système de santé pour se concentrer sur ce qui se fait de pire. Alors, je comprends très bien la position du monsieur. Puis ici, en plus, on nous a mis en tête depuis les années 60 que le privé, là, c'était le plus méchant bonhomme en santé. Ça n'a pas d'allure, le privé. Mm-hmm. Alors, tout ce qui est privé, là, c'est démoniaque.
C'est méchant.
Alors donc, mais on aurait avantage à laisser plus de place au privé.
L'exemple des États-Unis est intéressant. Je trouve pas que c'est un modèle de système de santé à reproduire pour plein de raisons qui sont trop longues à parler ici, mais il y a des parties du système de santé qui fonctionnent bien. C'est un système mixte. Et le point de monsieur, c'est drôle parce que je vais faire exactement le point de monsieur Beaulieu, c'est on a de la misère au Québec, on veut rebrasser les blocs. Ici, on regarde ça, comment qu'on va changer de place, puis on regarde ça entre nous. Mais des fois, il faut regarder ce qui se passe ailleurs. Puis, ce qui est intéressant, c'est de regarder là, du côté de l'Europe. Vous avez, dans la plupart des pays européens, mais en fait à peu près tous, une couverture publique universelle là, qui ressemble à la nôtre ou qui atteint les mêmes objectifs de façon différente avec une assurance publique plutôt que l'État qui finance les soins. Mais c'est la même chose. Et à l'intérieur de ces systèmes-là, il y a une mixité de services. C'est-à-dire que l'État gère des hôpitaux, puis il fait offre, gère la prestation de soins, mais permet à l'intérieur d'un système public, donc j'insiste, c'est pas en sortant la carte de crédit, mais l'équivalent de notre carte soleil, de recevoir des soins. Est-ce que ça fait d'avoir différentes solutions de prestation de soins? Puis il y a des indicateurs de performance qui sont publics aussi. Une bonne idée pour ici. Mm-hmm. Hein, le commissaire à la santé a joué un rôle très, très, très utile. Fait qu'on sait ce qui se passe, on sait c'est où les bons hôpitaux. Ça permet d'importer des solutions, d'avoir des comparables, d'avoir des choses qui se font différentes. Évidemment, c'est plus décentralisé. Et là, je voulais en venir, c'est que le point commun de tous ces systèmes-là, quand il y a des enquêtes internationales, c'est que pour l'accès, c'est mieux qu'ici. Puis c'est pas juste à l'urgence. C'est pour les médecins. C'est pour les chirurgies non urgentes. C'est pour les soins avec les spécialistes. Le Québec est systématiquement en queue de peloton. Il faut regarder ce qui se fait ailleurs.
Merci beaucoup, Claude, de votre appel. René, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, je viens de vivre un périple innommable avec les hôpitaux, c'est incroyable. Le 16 mai, ma femme est allée à l'hôpital parce qu'elle avait un mauvais goût dans la bouche qui donnait tellement mal au cœur qu'elle était pas capable de manger. On a passé 14 heures à l'hôpital pour finir parce qu'elle a fait donner un antibiotique qui l'a rendue deux fois plus malade parce qu'il disait qu'elle avait mal à la gorge. Ça l'a rendue deux fois plus malade. Le jeudi, elle est obligée d'envoyer d'urgence à l'hôpital parce qu'elle avait des douleurs tellement intense qu'on en perdait connaissance. Ça a pris 5 heures avant d'avoir une injection contre la douleur. Ça, c'est une partie du système que je trouve. OK, à l'urgence, ça prend 12 heures, pas de problème. Mais il devrait y avoir quelqu'un qui devrait voir, OK, vous êtes en douleur, on va au moins essayer de vous soulager. Ils ont donné 2 Tylenol 2 fois en 5 heures. Là, le médecin qui a réussi à avoir, lui, quand il a vu la douleur qu'elle avait, lui, il a donné du Tylenol pour calmer la douleur en attendant de faire des tests. Mais ça a pris 5 heures. Ça, c'est à l'hôpital de Laval. On a passé une journée et demie là. Ils ont fait des tests. Ils ont dit qu'il n'y avait rien. Ils ont retourné chez eux avec du gravol. Le lendemain, les douleurs sont aussi intenses. Puis elle recommence à perdre connaissance. Je la rentre encore à l'hôpital à l'urgence. Ils l'ont gardé une journée. Ils ont passé un paquet de tests. Ils ont dit qu'ils n'avaient rien. Ils l'ont retourné dehors. Là, son gastro-entérologue qui a suivi depuis 12 ans, il est à l'hôpital Fleury. Je sais qu'il est de garde le lundi. Je l'emmène à l'hôpital Fleury à l'urgence. J'ai demandé de voir le médecin. Elle a passé la nuit-là. Le lendemain matin, il était là à 8 heures encore. Le médecin de garde, il a dit, j'ai parlé à votre médecin, il m'a dit qu'il a regardé tous vos examens. Il ne pouvait pas rien faire pour vous. Ils l'ont mis dehors. Ils l'ont sorti de la civière, parce que moi, j'étais dans le trafic pour aller la chercher. Ils m'ont dit d'aller la chercher. Ils l'ont mis dans une chaise roulante, puis ils l'ont mis dans la salle d'attente en attendant que j'arrive. Là, elle est toujours dans les douleurs. Mais là, les hommes, ils ont eu la présence d'esprit de donner des dilodides. Là, 3 jours après, elle a rendez-vous avec son médecin de famille. J'ai réussi à aller voir son médecin de famille qui est à Vaudreuil. Son médecin de famille, elle a fait 2 crises chez son médecin de famille. Là, son médecin de famille a dit, René, je suis médecin, puis faut que je t'embarque dans l'ambulance, on peut pas la laisser comme ça. Mais elle dit, si je t'embarque dans l'ambulance, elle l'envoie à Valleyfield, c'est pire qu'à Laval et à Fleury, va pas là. Elle dit, la seule affaire que je peux te conseiller, embarque dans ton char, va-t'en au CHUM, c'est un hôpital flambant neuf, c'est un hôpital universitaire. Eux autres, ils vont avoir à cœur au moins d'essayer de trouver ce qu'elle a. C'est ce que j'ai fait. Elle a perdu connaissance.
Ah, puis pour vous, évidemment, de voir votre conjointe comme ça souffrir, de passer d'un hôpital en hôpital, de ne pas avoir justement de diagnostic, c'est extrêmement difficile. Puis là, vous êtes dans l'inquiétude en même temps. Il n'y a personne qui est capable de vous aider. Quand on parle de même soulager la douleur, que ce n'est pas possible d'avoir juste 2 Tylenol envoyés du gravol votant chez vous.
Elle est où maintenant?
Hey, Catherine, là, Catherine, imagine-toi, mon histoire, elle va finir drôle. C'est moi. Ils l'ont retourné chez eux parce qu'ils l'ont gardé 2 semaines. Ils l'ont gardé 2 semaines, ça a duré 55 jours, ça. Ils l'ont gardé 2 semaines au CHUM. Là, ils ont fini par trouver qu'elle avait une inflammation du côlon droit elle a fait un genre de gastro-viral. C'est peut-être ça qui causait ces douleurs-là. Ils l'ont retourné chez eux avec du gravol puis de dilodide, mais à la longue, on dirait que ça s'est atténué. Mais elle avait toujours mal au cœur. Ça faisait 47 jours qu'elle mangeait pas. Ça m'a coûté 700$ de Pédialyte. À 10 piastres la bouteille. J'ai reçu une bouteille de ça. Puis, ensuite de ça, à un moment donné, j'étais au golf avec un ami, je parle de ça, mais il dit, René, j'ai vécu la même affaire l'année passée. J'ai eu une bactérie qui s'appelle Helicobacter pyroli. Il dit, j'ai perdu 40 livres, j'étais malade comme un chien.
Elle n'a pas eu la prise de sang?
Non, pas du tout. Elle a eu des prises de sang, mais ils n'ont jamais trouvé ça dedans.
Ils n'ont pas cherché.
L'hélicobactère, ça a l'air qu'il faut que tu dans un affaire pour le détecter. Le liquide vient d'une autre couleur. Je n'ai pas trop compris comment ça fonctionnait. Okay. En tout cas, quand j'ai parlé à son médecin de famille, ils sont allés le voir, ils ont fait le test. Oui, elle l'avait. Il a donné le stuff. 6 jours, c'est fini.
Donc, René, c'est
une
vous.
Prise de
sang. Oui, puis René, c'est vous, finalement, qui avez découvert ce que votre femme,
par hasard
avait.
Par hasard.
Quand on parlait de, justement, que le patient, on dit le patient, c'était...
De responsabiliser
le patient. Oui, responsabiliser, ouais. Mais à un moment donné, écoute...
Mais il y a deux choses. Ouais. Premièrement, ça me brise le cœur de savoir ce que vous avez vécu. Et puis par contre, c'est un exemple à publiciser dans le sens que ça vient prouver ce que moi je dis. Dr. Barrette a coupé à peu près tout ce qui se faisait de prévention, de responsabiliser les patients. Le trois quarts des gens qui vont aller se soigner sur Internet, c'est pas une bonne idée. Vous avez vécu des choses. On a cherché et vous, ils n'ont pas trouvé, mais ils n'ont peut-être pas nécessairement cherché. C'est très difficile. Quand on entre notre voiture au garage puis qu'on dit au garagiste, elle fait... Bon, le garagiste, il a beaucoup de chances de trouver. Mmh. Puis à la limite, même si on y va deux fois, c'est pas grave. Le corps humain, c'est très, très, très difficile. C'est pas évident à soigner. Et la douleur, c'est très difficile aussi à évaluer pour différentes personnes. Je trouve ça dommage, mais la qualité des hôpitaux, la qualité... du personnel qui travaille. Des fois, il y a des situations comme ça où c'est très long avant de trouver.
Puis quand tu es toujours débordé aussi, à un moment donné, tu fais ce que tu peux. Tu sais, du côté de l'hôpital, il y a une question d'incitation. Là. Je vais revenir à mon gars économique plate un peu. Là. Mais au Québec, le patient, c'est une dépense pour l'hôpital.
C'est ça.
Ça, c'est un problème parce que plus tu as des patients, plus tu as...
Plus ça coûte cher,
plus tu ramasses dans le trou. Ben, un de nos meilleurs hôpitaux ici, c'est l'hôpital général juif. Ils ont tous refait leurs urgences il y a quelques années. Ils ont adopté la méthode Lean, Léon, et on en rit un peu, mais je veux dire, ça a produit des bons résultats là-bas.
Ouais.
Ils ont vraiment orienté pour que le flot des patients soit optimal. Ça a marché. Le monde vont là. Sauf que leurs dépenses ont explosé aussi puis se retrouvent en déficit. Dans d'autres modèles de système de santé, puis c'est le cas dans la plupart des pays d'Europe, on a implanté en divers degrés une forme de financement à l'activité où un patient, ça représente un revenu pour l'hôpital. Fait que les bons hôpitaux ont intérêt à attirer des patients, puis ceux qui performent un peu moins bien, bien, ils ont moins de financement.
Puis il y a un effet pervers à tout ça, à toutes ces histoires d'horreur-là qu'on entend, c'est que les gens maintenant... tardent à se présenter à l'urgence parce qu'ils ont peur d'attendre et tout ça.
Et de vivre la même affaire.
Et là, quand ils arrivent, c'est encore plus grave.
Exactement. 10h47, on continue de prendre vos appels via le 1-866-790-9850 514-790-9850. Oui. 10h50, on parle avec Marie-Josée. Bonjour.
Oui, bonjour. Moi, j'appelle parce que je vous entends parler d'hôpitaux, mais il y a les GMF aussi, les groupes de médecine familiale. Moi, je travaille dans une GMF, je suis téléphoniste réceptionniste. Maintenant, on est ouvert 12 heures par jour, 7 jours semaine. On a des spécialistes, on a 3 infirmières GMF, on a un super infirmier, on a 45 médecins, tout ça pour désengorger l'urgence des hôpitaux.
Puis vous avez de la place.
Ça marche-tu?
Oui.
Avez-vous de la place?
Ben oui, il y a toujours de la place.
Vous êtes où?
Oui, c'est ça, on va prendre des rendez-vous.
Il y a 75 patients par jour qu'on accepte avec Bonjour Santé.
Bonjour Santé, où on doit aller s'inscrire.
Le ministre n'aime pas. Ça a permis de désengorger en tabarouette, ça, mais le ministre, il les a un petit peu expropriés, Bonjour Santé, malheureusement. Ouais. Eux, ils ont fait réduire l'attente d'à peu près 2 heures de tout le monde en clinique. Là. J'ai plus les chiffres exacts, là, mais ça a vraiment donné une chance, ça.
C'est assez rapide. Là, pour ceux qui ne connaissent pas le système, vous allez sur Internet, vous inscrivez avec votre carte Soleil. Il y a un certain montant à payer quand
c'est
même.
C'est autour de 17 piastres, mais à votre clinique, à vous, c'est gratuit, par exemple. C'est ça l'affaire.
C'est gratuit quand vous appelez. Nous autres, on a notre propre Bonjour Santé, OK? On accepte les patients de l'extérieur qui ne sont pas inscrits à notre clinique. Vous appelez le soir, puis vous avez un rendez-vous le lendemain.
Écoute, ça, c'est juste du bonheur. Mais quand il y a une urgence, disons que moi, je ne vais pas bien.
3 heures du matin.
C'est durant la nuit, c'est sûr, mais dans la journée, Marie-Josée, si j'appelle à votre GMF, est-ce que j'ai de la chance d'avoir de la place ou je dois vraiment réserver le matin très tôt, faire le pied de grue?
C'est quelque chose qu'on peut soigner, OK, puis que vous êtes vraiment en urgence, on va essayer de vous prendre, c'est sûr. Sinon, si vous avez un pouce, vous vous êtes arraché un pouce, c'est sûr qu'on ne peut pas refaire d'autres en clinique. Mais on va vous suggérer d'aller à l'urgence parce que c'est un cas d'urgence, c'est pas un cas de clinique.
Mais vous êtes dans quel secteur, Marie-Josée?
Moi, je suis sur la rue Bélanger à la clinique médicale 3000.
Le message est lancé. Je pense que je vais recevoir beaucoup d'appels aujourd'hui.
Alors, des amis.
Et dans les prochains jours. Merci beaucoup, Marie-Josée.
Demain, avoir appelé, elle prend plus de patient.
Oui, c'est ça. C'est fini, finalement. Exact. Jean-Yves, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, qu'est-ce que vous avez
dit? Oui, moi, je voulais témoigner. Moi, ça fait plusieurs années que je ne vois plus aucun hôpital du Québec. Moi, par chance que je suis à Blainville. Et puis moi, je vais directement à Oxbury. C'est 45 minutes à 50 minutes par la 50. Et puis, en dedans de 2 à 3 heures, je sors de l'hôpital. N'importe quoi que j'ai eu. Et c'est l'hôpital, je dirais 6 étoiles. C'est épouvantable. Ils ont 3 codes de couleur. Et puis, il y a des bains exprès que tu n'as pas le temps de t'inscrire parce que tu es vraiment malade. C'est un infirmier ou une infirmière qualifiée qui fait le diagnostic. Et aussitôt, le médecin vient. Tu as besoin de radiographie. Il vient même te chercher en singe roulante. Tu n'as même pas à te déplacer dans chacun des services. C'est vraiment un 6 étoiles. C'est épouvantable. Moi, depuis ce temps-là, je ne vois plus. Parce que quand j'avais été à Saint-Eustache, j'ai été jusqu'à 22 heures d'attente. C'était de la santé, 18 heures d'attente.
C'était
fini, moi. Pour ceux qui peuvent avoir la chance d'aller
oui,
là.
Oui, mais c'est ça, vous avez la chance d'être à côté aussi.
Oui, mais c'est ça. Puis notre ministre promettait de mettons Vaudreuil-Dorion de rénover l'hôpital parce que oui, ça coûte énormément cher au Québec d'aller dans les hôpitaux ontariens. Mais moi, je comprends pas une chose que notre gouvernement du Québec, au lieu d'aller en Europe pour apprendre des choses, on a une province d'Ontario à côté qui a un système épouvantable et ça m'est arrivé en Nouvelle-Écosse d'un voyage d'affaires aussi d'avoir un problème et j'ai passé là dans 2-3 heures. Leur système, ils l'ont. Si, je comprends pas, Fait que moi, c'est fini les hôpitaux du Québec. Et c'est quand même le Québec qui paye. Ouais. Qui paye plus cher.
Merci beaucoup, Jean-Yves, de votre appel.
J'apporterais juste une petite nuance. C'est vrai que l'Ontario, c'est mieux qu'au Québec. Au Québec aussi, c'est dans les grands centres, la Montérégie, que c'est vraiment hyper aigu. Quand on s'éloigne un petit peu, ça a tendance à être beaucoup mieux. Puis ça ressemble à la situation que monsieur décrit, c'est-à-dire quelques heures d'attente. Mais l'attente, on en est venu à trouver ça normal, que c'est une fatalité d'attente. Ouais. Mais je donne juste un exemple. Il y a des sondages internationaux pour mesurer entre les pays la perception des patients sur combien de temps ils attendent à l'urgence. Évidemment, c'est le fun, ça inclut le Canada puis le Québec. Bon, au Québec, en Allemagne, à l'échelle nationale, ils ne mesurent même pas le temps d'attente.
Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas, mais là, à cause des sondages, on sait qu'il y a 1 % des patients qui attendent 5 heures ou plus. Ici, c'est 5 % des patients qui attendent 24 heures ou plus. On est même pas sur la même planète. Non. Mais imaginez, là, le ministère de la Santé en Allemagne ne voit pas la nécessité de mesurer le temps d'attente. Puis, il y a une couverture publique universelle en Allemagne aussi. Fait que c'est pas obligatoire.
Mm-hmm. Martin, bonjour. Vous faites soigner à l'étranger.
Je me fais soigner à l'étranger, j'ai la chance de voyager, donc toutes les possibilités de check-up quand j'ai besoin de faire des check-up, vérifier un peu mon système. Je fais ça en Thaïlande, je fais ça au Mexique, je fais ça partout où j'ai un accès qui est pas cher, qui est pas dispendieux. Je rencontre des médecins qui sont extraordinaires, qui prennent le temps de m'expliquer également quand il y a un problème. J'avais une douleur au testicule au Mexique l'année dernière quand j'étais là. J'ai rencontré un médecin, j'ai rencontré, je crois que c'est qui s'occupe de, en tout cas, un urologue, je pense.
Oui.
J'ai rencontré l'urologue, j'ai été voir, il m'a passé un scan, une échographie, merci, pour 45 minutes. Il m'a expliqué ce que j'avais, il m'a dit c'était quoi le problème, il m'a dit comment le remédier, ils prennent le temps. Le tout m'a coûté 75 $ et je vous dis, je suis prêt à payer parce que par la gentillesse et le temps que prennent ces médecins-là de nous expliquer ici, il y a un débordement, c'est traité comme les hôpitaux sont, on dirait une usine. On dirait qu'on rentre dans une usine, go, performance, pas de compassion, et c'est difficile. Je comprends les infirmières, je comprends les médecins, c'est go, performance, passer le plus de monde possible, l'argent, puis l'humain, on tasse ça. Donc,
merci Martin de votre commentaire. On parle beaucoup de changement, de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Mais qu'est-ce qui fait qu'au Québec, ça fonctionne pas, puis ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans qu'on en parle du système de santé,
à un moment donné? Par en haut, c'est toujours géré, c'est des directives ministérielles qui arrivent, c'est un ministre qui prend beaucoup d'espace, qui veut gérer, comme on a dit tantôt, même les menus des hôpitaux, ça n'a pas de sens.
Mais même si on tasse Dr Barrett.
On a des lobbies très forts qui sont résistants au changement.
Oui,
C'est les médecins, puis les grandes centrales syndicales aussi, qui ne sont pas nécessairement mal intentionnées, évidemment, mais à un moment donné, il y a une résistance au changement, puis on a peur d'importer ces modèles-là. Mais pour ça, il faut accepter que ça soit un petit peu moins uniforme.
Je pense qu'au Québec, on a une devise qu'on a oubliée, mais qu'on applique partout. Là. On voudrait bien que ça change, mais en autant que ça reste pareil. Alors, c'est un peu ça qui se passe dans le système de santé. Tout est décidé en haut lieu. Ouais. Le public, le patient, qui devrait être le premier concerné, n'a pas un mot à dire là-dedans. Il subit. Puis, tant que ça va être comme ça, je vois pas tellement où on peut aller en mieux.
Ben, espérons que ça change. Puis, espérons. Oui, il faut continuer à en parler encore et toujours. Lynn Laroche, un grand plaisir. Merci. Infirmière, auteur du livre Une infirmière en colère, Jacques Beaulieu. On peut lire au HuffPost Québec. Et Patrick Derry, analyste en politique publique à l'Institut économique de Montréal. Merci d'avoir été avec nous. On s'arrête quelques instants pour les informations.
Merci à vous.